Voilà donc aujourd'hui un grand classique de l'Évangile, la rencontre de Zachée et de Jésus, que je vais d'abord vous lire. Donc au chapitre 19 de l'Évangile de Luc, les versets 1 à 10. Jésus entra dans Jéricho et passa par la ville. Un nommé Zachée, qui était chef des collecteurs des taxes et qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus. Mais à cause de la foule, il ne pouvait pas le voir car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, descends vite ». « Il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. » Tout joyeux, Zachée descendit vite pour le recevoir. En voyant cela, tous maugréaient. Il est allé loger chez un pêcheur. Mais Zachée, debout, dit au Seigneur, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai extorqué quoi que ce soit à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, » parce que lui aussi est un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Voilà, je vous propose qu'on fasse d'abord un tour de table, que vous puissiez exprimer vos réflexions sur ce texte, hein, que vous ne devez pas avoir découvert aujourd'hui, j'imagine. Voilà, la parole est à vous.
La parole circule.
Oui.
Il va pas garder son boulot longtemps.
Attendez. Il y a quelqu'un qui... Monsieur.
Il ne va pas garder son boulot longtemps.
Zachée ne va pas garder son boulot longtemps.
Là, je suis un ancien comptable. Alors. Ouais. Percepteurs et qui en distribuent tout.
À cette époque-là, ils ont leur propre fonds. Je veux dire, c'est
son, oui, ils avancent même.
C'est son argent à lui qui est redistribué. Enfin, celui qu'il a volé pour lui-même, c'est pas les fonds d'État. C'est bien ce qu'on a rapproché à Lavoisier.
C'est une joke.
Oui, mais même ça a un sens. S'il est prêt à rendre l'argent.
Il reconnaît qu'il a extorqué des gens, quand même.
Il reconnaît en passant. Voilà.
Oui. Ça veut dire qu'il ne garde pas son boulot longtemps, en fait, comme publicain, quand il travaillait à son compte, et même ça avait été un peu jusqu'à d'autres révolutions. Lyon, le cas de nos percepteurs et fermiers généraux, donc on peut dire que même si cette famille qui l'a choisi, quant à moi, j'ai découvert cet évangile-là quand j'étais membre au catéchisme catholique, alors à la leçon sur le septième commandement, où tu ne voleras pas le bien d'autrui. Alors qu'on disait qu'il était un homme parfait, puisqu'il se taxait à la peine du voleur, qu'il devait rendre le quadruple si c'était encore. En sa possession, et que s'il l'avait perdu d'une façon ou d'une autre, il n'était plus tenu que du double. Donc il essaye d'être un homme parfait, de se mettre en se punissant lui-même, enfin un homme parfait qui n'a plus à s'accuser de son péché, qui n'a plus à se repentir de son péché, disons.
Moi, je suis assez frappée par le côté contemporain, enfin cette. Que c'est un peu star, enfin, à côté on grimpe dans l'arbre, on va avoir la star qui passe. Il y a quelque chose qui me paraît très naturel, peu surprenant, je dirais presque, dans cette rencontre. Curieusement, ça fait surprendre, mais ça ne me surprend pas.
Voilà, ouais. Contrairement à l'histoire de la semaine dernière, là il s'agit de péchés ou de fautes qui semblent pouvoir être réparés. On ne sait pas s'ils peuvent être réparés. Si la personne, entre-temps, est morte de faim, ça ne sera pas réparé. Et pour moi, c'est ça la grande différence. Qu'est-ce qui peut être effacé de ce qui a été commis.
Oui. Là, on est... C'est intéressant, de, je trouve, de voir comment immédiatement, dans un premier temps, l'attention est portée sur les effets que cause le passage de Jésus dans la vie de Zachée. Et je pense en effet qu'on pourra réfléchir un peu sur le sens de ces paroles de Zachée. Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai extorqué quoi que ce soit à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Parce qu'en fait, il y a un vrai débat depuis plusieurs années parmi les exégètes de Luc sur le sens de ces paroles. Hein, mm-hmm. Parce que, pour le dire immédiatement, il y a finalement deux grandes écoles d'interprétation. Il y a ceux qui disent... oui, c'est vrai, Zachée, c'est la figure classique du pécheur qui est visité par Dieu et qui se repent et qui décide de porter des fruits, voilà, d'attester de manière concrète que le salut est entré dans sa vie. Et donc il est prêt, ayant été finalement converti dans cette rencontre avec Jésus, à verser la moitié de ses biens aux pauvres et de rendre le quadruple à ceux qui l'auraient grugé, bien sûr, dans l'exercice malhonnête de ses fonctions de publicain, de collecteur d'impôts, dont on nous a rappelé, en effet, que c'était des tâches qui étaient affermées, hein, comme sous l'ancien régime dans notre pays. Mais il y a aussi une autre école d'interprétation qui dit en fait que finalement, Zachée est un honnête homme et qu'il est finalement ici en train de se justifier par rapport aux accusations et aux calomnies de la foule, puisqu'il dit non, habituellement, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Voilà. Et dans le cas où j'ai été amené à instruire une procédure de recouvrement de fonds non versés, eh bien, je le rends au quadruple quand le moment est venu. Alors, le débat entre les exégètes se joue sur la temporalité qui est accordée à ces verbes. Est-ce que c'est tourné vers un avenir, je vais, ou est-ce que c'est habituellement, je verse. Et donc, il y a vraiment deux positions très tranchées entre voilà, Zachée, le pécheur qui se convertit, et Zachée, le juste, qui doit se disculper. Donc, les deux lectures sont possibles. C'est vrai que pour ma part, depuis, comme beaucoup d'entre vous, hein, j'ai rencontré Zachée au catéchisme, hein, et que j'ai été très, très formé dans cette lecture où finalement l'Évangile veut nous montrer les effets du salut, le cœur qui est touché, qui se repent, et les décisions que finalement on est appelé à prendre dans cette perspective d'accueil du salut et d'inscription du salut dans le concret de son existence. Voilà. Mais les deux lectures sont possibles, hein, et on peut finalement recréer le Zachée que l'on veut. Voilà, on peut pas trancher, même si, alors par exemple, François Bovon, cet exégète disparu il y a quelques années, dans son grand commentaire sur Luc, qui a fait référence à l'heure actuelle, dit qu'en fin de compte, il préfère se rallier à la théologie du salut et de la conversion et de l'inscription du salut dans une vie qui est assez cohérente avec la théologie de l'évangéliste Luc, hein, qui est très sensible à cette thématique du salut et qui aime montrer comment le salut entre dans la vie d'un homme et comment il se déploie à travers une éthique, à travers une vie renouvelée. Mais Je pense qu'il y a une liberté d'interprétation par rapport à ce texte.
Je pense que c'est assez difficile, l'interprétation qui dirait qu'on peut rencontrer le Christ en plus en vrai, juste on est là juste au bon moment, et que ça ne change rien. Ça, c'est quelque chose de très angoissant, cette possibilité-là. Et que ce soit ce texte ou ailleurs dans nos vies, de se dire, et si je le rencontre et que je n'en suis pas changé, on n'a pas du tout envie d'entendre ça.
Mais est-ce que rien n'est changé dans la vie de Zachée à travers cette rencontre?
Qu'est-ce qui a été changé si ce n'est
d'abord,
pas...
Il sait que Jésus va passer par là, donc il a envie de le voir. C'est quand même lui qui désire rencontrer Jésus. Pourquoi faire? Pour rencontrer le prophète, on ne sait pas. Et pourquoi est-ce que brusquement Jésus le voit et lui dit Zachée? Jésus n'est pas censé savoir d'avance que Zachée est là et qu'il a envie de le voir. Donc c'est curieux cette rencontre entre le désir de rencontrer Jésus et le fait que Jésus vient au secours, en somme, de quelqu'un dont il ne sait rien apparemment.
En tout cas, il a été vu, il a été reconnu.
Voilà.
Ça, c'est pas tous les jours que ça arrive.
Moi, j'ai plutôt l'impression que c'était déjà prévu. Je sais pas, moi, j'ai l'impression que c'était déjà tracé comme ça. Quand je lis le texte, j'ai l'impression que oui, il avait ce ardent désir, Zachée, de rencontrer Jésus. Mais j'ai l'impression qu'il allait le rencontrer, en fait, que Jésus avait déjà prévu de le rencontrer. C'était comme si, pour moi, c'est comme si tout était déjà écrit d'avance. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai cette impression-là.
Et c'est écrit, hein.
Oui, parce qu'on voit qu'il est, il est omniscient. Donc, Dieu connaît toutes choses. Et en fait, c'est lui qui est maître des circonstances. Et il sait, justement, il reconnaît en Zachée celui qui veut justement lui se repentir et se délaisser de toute sa vie passée, de tout ce qu'il avait fait par rapport justement concernant l'argent, combien il avait commis de l'injustice. Et donc il voit quand il reconnaît tout de suite justement Zachée et puis il l'invite. Donc en fait il y a ce premier, cette première étape de toujours de l'initiative de Dieu, l'invitation, et d'autres, il répond à l'appel. Et il dit bien que justement, il y a un moment donné un passage qui dit le reçu avec joie.
Oui, oui. On peut au moins dire ce que Luc décrit, analyse, met en récit un dessein de Dieu qui est un dessein de salut. Et que l'histoire qui est en train de se dérouler s'inscrit en effet dans ce projet de salut qui est donné, qui est indiqué d'ailleurs à travers un terme très 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 caractéristique du vocabulaire de Luc au verset 5, hein. Il faut qu'aujourd'hui je demeure chez toi. Alors, ce « il faut », il n'est pas l'expression d'une nécessité au sens où tout serait réglé d'avance, mais c'est l'expression que les événements sont inscrits dans une histoire du salut qui est en train de se déployer. Et il reste en effet que le regard que porte Jésus sur cet homme reste tout à fait inexpliqué, inexplicable, échappe d'une certaine manière aux aléas de l'histoire et nous renvoie, alors en effet, à l'intention salvifique de Dieu vis-à-vis de ses créatures. Et on pourrait se demander, vous voyez, si le salut, ce n'est déjà pas cela dans la perspective de Luc, le salut comme rencontre avec Dieu, comme reconnaissance. Dieu nous reconnaît comme personne, il appelle par notre nom. Il y a un échange de regards, Hein, d'ailleurs, on pourrait, ce serait intéressant de réfléchir sur ces regards. Il y a ensuite un échange de paroles, et il y a quelque chose qui se passe pour Zaché. Il est reconnu, il est appelé par son nom, reconnu dans sa dignité. Il est invité à l'hospitalité. Hein, il va ouvrir sa porte à ce Jésus qu'il désirait en voir, et il va s'entendre dire par Jésus que lui aussi est un fils d'Abraham. C'est-à-dire qu'il fait partie de cette communauté si particulière, hein, sur laquelle on pourrait d'ailleurs s'interroger, sur ces fils d'Abraham. Qu'est-ce que ça veut dire que, vous voyez, que Jésus s'adresse en lui faisant le cadeau, le présent de cette identité, hein, qu'il est sans doute intégré à la communauté du salut. Hein. Mais qu'est-ce que c'est qu'être fils d'Abraham, hein? Et là, on a peut-être l'écho alors d'interrogations qui ont traversé l'Église du temps de Luc sur qu'est-ce que c'est être fils d'Abraham. Donc peut-être que le salut, c'est aussi tout simplement cette rencontre entre Jésus et un homme, avec tout ce qu'elle est là comme conséquence de reconnaissance, de prise en compte d'une dignité, de don finalement d'une identité, qui est peut-être une identité nouvelle, hein, parce que voilà un homme qui passe de ce statut de chef des collecteurs d'impôts, c'est comme ça qu'il nous est présenté, à fils d'Abraham. Donc il y a là vraiment un changement, une transformation, une métamorphose, un nom nouveau, hein, qui indique qu'il y a une nouveauté de vie qui est en train de se jouer dans ce récit.
Ce qui m'interroge, c'est ce qui se passe pour les autres. Pourquoi c'est lui seulement, pas les autres?
Voilà.
Il est écrit justement, ça remplirait en fait, comment dire, si on racontait tout ce que Jésus a pris à faire, et bien même un livre ne pourrait même pas contenir. Donc on voit justement, pas particulièrement le publicain, en fait, lui qui est mal aimé, les juifs, enfin justement, et puis quand on voit Jésus aussi qui dit, c'est en fait, c'est particulièrement, on veut s'en focaliser, quand on redit qu'il faut que, on voit que Jésus dit, il y a la nécessité. Tu as besoin vraiment de recevoir le salut, comme le salut justement précède, puisque c'est Dieu qui dit.
Oui, j'ai un côté un peu un seul, et ça fait un peu quelques uns sont élus, mais lui il a réussi à grimper sur l'arbre, enfin, c'est plus fort, enfin, il y a quelque chose un peu moins, où il y a plus d'énergie, enfin, c'est pas, mais on dirait que c'est pas donné à tout le monde, ça fait un petit peu ça.
C'est vrai et c'est pas vrai. En fait, j'ai envie de dire qu'on rentre. C'est peut-être qu'à l'intérieur de lui, Jaspier avait déjà fait un pas. Vers Dieu, ou bien vers le Christ. Et c'est justement cette particularité-là que vous nommez. Pourquoi lui particulièrement? Peut-être à l'intérieur de lui, avec sa manière de gérer l'argent, parce qu'il dit à Jésus ou bien, il se justifie un peu, mais par rapport à ses actes, que s'il reconnaît que quand il faisait des erreurs, il remboursait deux fois. Donc peut-être c'est cette particularité qui fait que le Christ vient vers lui, quoi.
Je pense qu'il faudrait... se dire que le salut est toujours une affaire personnelle. Hein. Voilà, on essaye de nous faire entrer dans une théologie du salut à travers un récit. Et donc il y a une mise en scène. Et que le salut, il est personnel. Donc ça se passe dans le dialogue entre Jésus et une personne. Et le salut, c'est pas de dire « Dieu aime tous les hommes ». « Dieu aime tous les hommes », c'est une banalité. Le salut, c'est la rencontre d'une personne, ce qui ne laisse rien présupposer des autres. C'est pas parce que Jésus a un entretien avec cet homme-ci que les autres sont exclus du salut. Et comme un peu comme par analogie, pour faire comprendre vraiment ce que je veux dire, la résurrection, elle concerne tout homme. Et en même temps, il y a le récit d'une réanimation de Lazare. Hein. Comme disait un prédicateur pentecôtiste, non sans humour, si, si Dieu avait dit « sors de ce tombeau », sans préciser le prénom de Lazare, ils seraient tous sortis, tous les morts seraient sortis. Voilà. Donc ici, il y a, je veux dire, c'est, on est l'intérêt des évangiles, c'est de nous mettre en récit des vérités qui ont une prétention à l'universalité. Et j'ajoute que le « il faut », c'est pas un « il faut » pour Lazare, hein. C'est un « il faut » qui concerne Jésus. Il faut qu'aujourd'hui, je demeure chez toi. Voilà. Finalement, le salut est présenté par Luc comme une affaire de relation entre personnes. Le salut, ce n'est pas la proclamation d'une idée. Alors, Dieu sauve l'humanité. C'est un dialogue personnel entre des êtres de chair et le Dieu du salut. Je vous propose maintenant qu'on reprenne un peu verset par verset le récit. Dans l'architecture globale de l'Évangile, cela se passe dans la montée, hein, de Jésus vers Jérusalem et vers sa passion. C'est une histoire qui se déroule à Jéricho. Juste avant, Jésus vient de guérir un aveugle. Ce qui est assez intéressant, puisque on vient de nous parler de la guérison d'un aveugle, et là nous avons affaire à un homme qui veut voir Jésus, qui est pourtant empêché, voilà, par une autre raison que la cécité, mais qui est empêché de voir Jésus. C'est un récit d'appel, hein, qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler une autre histoire d'appel dans l'évangile de Luc, au chapitre 5, versets 27 à 32, l'appel de Lévi. Voilà. Alors on peut se demander, hein, s'il n'y a pas une parenté entre ces deux récits, si finalement l'entrevue avec Zachée, c'est pas quelque chose qui a été retravaillé à partir d'un autre récit. C'est un récit très, très sobre. Si je regarde le déroulement du récit, nous avons au verset 1 l'indication que Jésus est en train de passer. Voilà, ce personnage qui passe, c'est aussi assez indicatif de la nature du ministère de Jésus. Au verset 2, on nous donne un certain nombre d'indications sur Zachée. On nous donne son nom, l'indication de sa profession, son statut social. Zachée, on nous dit aussi, alors que c'est un nom tout à fait sémite, cela veut dire celui qui est pur. C'est l'innocent. Et je trouve que c'est assez intéressant, parce que nous, justement parce que nous sommes tributaires d'un certain nombre de lectures, dont certaines remontent à notre enfance, pour nous, Zachée, c'est le pécheur. Voilà. Et là, le nom qu'il porte nous dit qu'il est innocent. C'est ainsi. Il y a peut-être un paradoxe qui est pointé pour que nous sortions de nos lectures peut-être un peu trop convenues. En tout cas, ce Zachée, on sait aussi qu'il est de petite taille, et au verset 3, on nous le rappelle. On nous dit en effet qu'il désire voir Jésus. Ses motivations nous échappent et nous échapperons à tout jamais. Pourquoi désirait-il voir Jésus? Alors, bien sûr, si on se réfère à la théologie de Luc, on peut se dire que Luc a la conviction que l'être humain est un être de désir et de quête, voilà, et qu'il est en recherche de sens, de vérité, et que peut-être que ce Zachée, c'est la figure exemplaire de l'homme qui cherche un sens à donner à sa vie. Voilà. En tout cas, il est petit et il ne peut pas voir Jésus. Il est empêché de le voir, nous dit Luc. Et la solution de rechange apparaît au verset 4, où on nous dit qu'il grimpe. Il grimpe sur un sycomore, voilà, donc un arbre feuillu dont on nous dit qu'il a un tronc très large, assez court, avec de grosses branches basses, qui devait quand même faciliter la montée, voilà, et que Zachée peut-être pas monter à la cime des arbres. Peut-être voulait-il voir sans être vu. Hein. Je pense que on peut aussi analyser dans ce récit le jeu des regards. Hein. Le jeu des regards, il y a un petit côté voyeur en Zachée, hein, qui monte dans l'arbre pour voir.
S'il est aussi impopulaire, il n'a peut-être pas envie d'être repéré.
C'est possible aussi. Hein, c'est possible aussi. En tout cas, à partir du verset 5, il y a un renversement de situation, puisque à ce moment-là, il y a un échange de regards. Hein, voilà. Il y a une relation qui est en train de se nouer, hein, on quitte finalement un regard qui est toujours un peu voyeur pour entrer dans un regard d'échange, échange qui va se poursuivre par un échange de paroles. Voilà. L'indication toujours au verset 5, l'invitation à la hâte suggère qu'une intention divine, hein, c'est comme Dieu est là, et quand Dieu est là, eh bien, il est nécessaire de répondre à l'appel. Hein, on l'avait déjà vu les fois précédentes. Aujourd'hui, ce mot tellement important dans le vocabulaire lucanien, il y a irruption. Irruption de Dieu, le dessein de Dieu va se révéler et se déployer. Donc Jésus interpelle le Zachée. Voilà. Descends aujourd'hui, en effet, dans ta maison, il faut que moi je demeure. Zachée, bien sûr, accepte en hâte. Et il va accorder l'hospitalité à Jésus. Et là, on retrouve l'attention que Luc prête aux rencontres et aux visites comme figure du salut. Deux hommes qui se rencontrent, il y a quelque chose du salut de Dieu qui est en train de se jouer. Et Zachée est... nous dit le verset 6, accueille Jésus en se réjouissant. Pour Luc, là aussi, c'est une des caractéristiques de son évangile, la présence de Dieu ne peut que réjouir le cœur de l'homme. Ce qui, par contraste, nous renvoie à une autre histoire de rencontre, hein, un autre homme riche qui lui aussi a rencontré Jésus, mais qui lui est parti tout triste. Tandis que là... il y a un homme qui est heureux de cette rencontre avec Jésus et qui est prêt à l'accueillir dans sa maison. Voilà donc la premier grand mouvement, hein, du récit, très beau, très édifiant dans tous les sens du terme. Et puis il y a un tournant avec le verset 7, en voyant... Hein, tous murmuraient en se disant, cet homme a fait halte chez un pêcheur. Alors, on voit ressurgir le vocabulaire de la vue. Hein. Tout à coup, il y a une foule, des gens qui voient et qui prennent la parole. Hein. Finalement, le bonheur de l'un fait l'aigreur des autres. C'est assez classique dans la vie. Hein. On a tous plus ou moins fait l'expérience, et cette foule, finalement, désigne Zachée comme un pêcheur, voilà. Un Martolo, un pêcheur, un homme pêcheur. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a l'identité de Zachée qui est donnée par la foule. Voilà. La foule regarde cet homme comme un pêcheur. Alors c'est intéressant parce que dans notre lecture, voilà, comment est-ce que nous, quand on aborde ce texte, comment on est prêt à qualifier Zachée? Et moi, je me suis surpris, en effet, à me dire que, jusqu'à une date finalement récente, pour moi, Zachée, c'est la figure par excellence du pêcheur. Et je me rends compte qu'en tenant cette position, je me range parmi la foule. Hein, qui n'a pas vraiment...
La foule, c'est la foule.
Oui, voilà. Qui n'a pas le beau rôle dans cette histoire. Hein, la foule, non, elle a rarement le beau rôle, en effet. Voilà. Et que peut-être que la suite de l'histoire, ça va être justement de briser cette image. Soit la réalité du personnage, c'est peut-être un pêcheur. Soit de briser l'image que la foule se fait de ce personnage. Peut-être même l'image que Zachée se fait de lui-même.
Pardon. Moi, je n'ai pas fait le catéchisme quand j'étais petite, donc j'ai des gros sabots. Il me semble que, d'une manière générale, les publicains étaient considérés comme des collaborateurs et par conséquent des pêcheurs.
Oui. Collaborateurs, des hommes impurs parce qu'ils... leur passait entre les mains de l'argent, qu'ils étaient en relation avec les occupants, des païens, oui. Par rapport à des lois rituelles. Mais ce qui me semble plus intéressant, plutôt que de s'interroger d'abord sur finalement la réalité de cette accusation, c'est le fait même que cette foule désigne Zachée sous ce qualificatif. Voilà. Est-ce qu'il est saint et saïen qu'un homme soit enfermé dans une qualification, quelle qu'elle soit. Enfin, et là, pêcheur, elle est vraiment, en effet, hein, infamante. Hein. Et peut-être que la théologie du salut qui est derrière de ce récit, c'est justement de remettre en cause cette qualification. Mais peut-être qu'il l'est objectivement, un pêcheur, en effet. Voilà.
Alors, est-ce qu'il est plus pêcheur que les autres ?
Pardon ?
Est-ce qu'il est plus pêcheur que la foule ? Moi, c'est tout
Mon
refus, quoi.
Oui, voilà. oui, il y a bien sûr un jugement qui est porté par l'Évangile sur la foule, hein, c'est une foule qui voudrait empêcher la relation entre Jésus et Zachée, certainement. Mais elle a son rôle dans l'histoire, parce que c'est sur la parole de cette foule qu'on va passer du fait, du récit de la rencontre, à l'interprétation. Parce que ce qui fait l'intérêt de ce petit récit, qu'il est riche, c'est qu'on nous raconte une histoire, un événement, et qu'on va en tirer le sens. Mais le sens, il n'est rendu possible que parce que la foule prend position. Une position que Jésus va remettre en question. Voilà, une foule qui affirme que cet homme est pécheur, et Jésus va recadrer les choses.
Moi, je connais pas la Bible, donc excusez-moi. Pêcheur aux yeux de la loi, pour la loi juive, hein, qui ne respecte pas.
Oui.
C'est ça.
Voilà, pêcheur. Oui, là, on est dans le cadre du judaïsme. Voilà, cet homme n'est pas dans le respect de la loi, n'est pas dans le respect des commandements et des multiples, des 613 commandements. Et puis il est dans sa fonction de publicain, en lien avec des païens, et donc il est dans une situation objective de péché et d'impureté. En tout cas, Zachée prend la parole, hein, c'est au verset 8, et là, nous avons une déclaration qui suscite d'immenses débats, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Voici la moitié de mes biens, hein, et je donne aux pauvres, et si j'ai extorqué quelqu'un, je rends le quadruple. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, soit le temps des verbes est compris comme un présent de l'indicatif, soit comme un futur proche, et soit on nous montre un Zachée en train de se convertir, soit on montre un juste en train d'essayer de se disculper. Voilà. Le débat est ouvert. En tout cas, la déclaration de Zachée va conduire Jésus à rebondir, hein, et à donner, à apporter un éclairage sur ce qui vient de se passer. Hein. Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison parce que lui aussi est un enfant d'Abraham. Voilà. Alors, aujourd'hui, qui, autant que je me souvienne, est déjà apparu, oui, c'est-à-dire au verset 5a, oui. Aujourd'hui, en effet, il me faut demeurer chez toi. Donc l'intervention de Dieu est signifiée. Le salut vient pour cette maison. Donc là aussi, il y a une interrogation. Pas le salut vient pour cet homme, il vient pour cette maison. Alors, qu'est-ce que ça signifie ?
Les domestiques aussi.
Oui.
Même s'ils ne sont pas juifs. Mm-hmm.
Et voilà. Peut-être plus largement encore. Voilà.
Que la foi, c'est par le croyant, c'est pas une affaire d'appartenance, entre guillemets, sanguine, j'ai envie de dire, héréditaire par le sang, mais c'est vraiment l'esprit. C'est par l'esprit, par ce en quoi nous croyons. En fait, si on croit en Dieu, ben c'est ouvert, en fait, indépendamment de notre lignée, on va dire.
Mm-hmm. Ouais. Oui.
Fils d'Abraham, c'est ça, quoi. Fils voilà. Par la foi. Par l'esprit, par la croyance en l'esprit de Dieu qui nous a vu.
En effet, il y a un lien très fort entre l'affirmation de l'existence de cette maison et puis le titre de fils d'Abraham. Mm-hmm. La maison, en effet, on peut penser que c'est le rassemblement des fils d'Abraham. Et que à ce moment-là, en effet, il est plus simple, il n'est pas plus question d'une appartenance ethnique, de ceux qui pourraient se réclamer de la généalogie d'Abraham, mais qu'il est question d'un autre type d'appartenance qui alors là et renvoie à quoi ? La confiance placée en Jésus, l'entrée dans un dialogue avec lui, et aussi le comportement éthique. C'est un fils d'Abraham. Pourquoi ? Parce que il donne de ses biens aux pauvres, et que s'il a extorqué dans le cadre d'une procédure judiciaire, il rend au quadruple. C'est-à-dire que ce qui caractérise l'appartenance à cette communauté, c'est un certain comportement moral, c'est une certaine éthique de vie. Et c'est intéressant parce que voilà, ça nous indique quelque chose de cette communauté du salut que Dieu veut rassembler en Jésus-Christ. Qui sont les enfants d'Abraham ? Voilà. Pas simplement ceux qui appartiennent à une ethnie, mais ceux qui, par leur foi, ont un certain comportement. Ce n'est pas d'ailleurs exclusif du christianisme, hein, puisqu'on trouve cette interrogation déjà présente dans le judaïsme. Qu'est-ce qu'être fils d'Abraham ? Il y a un très bel apologue du Talmud qui dit que la fille de Pharaon, lorsqu'elle est elle recueille l'enfant Moïse, qu'elle agit avec humanité, elle s'inscrit dans cette lignée des enfants d'Abraham. Alors, en tout cas, le fait que Jésus accorde à Zachée ce titre de fils d'Abraham, indique finalement peut-être que là est le salut. Le salut, il est dans ce nom nouveau donné à cet homme, hein, et qu'il y a un balancement entre le statut de pécheur qui était le sien auparavant, qui est un statut qui était donné par la foule, hein, une foule de gens qui, bien sûr, eux ne sont pas des pécheurs, puisqu'ils désignent Zachée comme tel, donc eux, ce sont des justes, à l'appartenance, on passe à l'appartenance à ses fils d'Abraham. Donc, et Jésus, finalement, s'il est le médiateur du salut, c'est en cela. Il fait passer à une identité nouvelle. Et enfin, le verset 10 vient conclure alors avec une affirmation théologique très forte, hein. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu, hein. C'est en quelque sorte le point d'orgue théologique de ce récit, hein, puisque du part nous avons un titre christologique, Fils de l'homme, donc un titre tout à fait important dans la christologie du Nouveau Testament, hein, qui est la désignation du Christ dans sa fonction de sauveur, dans sa dimension eschatologique du personnage qui, à la fin des temps, doit inaugurer le règne de Dieu. Donc là, on quitte le plan de l'anecdote du récit pour entrer vraiment dans une relecture théologique de ce qui vient de se passer, et avec aussi une description de ce qu'est le salut. Voilà. Quelque chose qui a été perdu, qui est recherché par le Christ et qui est sauvé. Alors, on pourrait s'interroger un peu, c'est un peu la question que je vous pose finalement. Qu'est-ce qui a été sauvé chez cet homme, finalement, chez Zachée, dans cette histoire? Qu'est-ce qui est sauvé?
Son désir de rencontrer Jésus.
Oui. En effet, son désir de rencontrer Jésus est sauvé.
Je pense à la différence par rapport à la foule.
Oui.
Il n'est plus méconnu, mais il est reconnu par Jésus.
Oui, alors son désir de rencontrer Jésus, en effet. Et là, je pense que Luc nous dit quelque chose du salut et de l'articulation entre le désir humain et la réponse de Dieu. La réponse de Dieu n'est pas simplement la réponse au désir de l'homme. Quand Dieu vient accomplir, il modifie, il fait bouger ce désir humain. Voilà. Il y a une quête et un accomplissement, mais un accomplissement qui ne se fait pas nécessairement selon le désir de l'homme. C'est vrai, Zachée désirait voir Jésus, mais il s'est passé quelque chose qui allait très au-delà. Bien sûr, il a été exaucé dans son désir de voir Jésus, mais ça lui a ouvert des perspectives radicalement nouvelles et qui étaient complètement inattendues par rapport à sa situation précédente. Et vous voyez, Dieu n'est pas simplement la réponse à des questions que nous nous poserions. Ces questions, il les entend, mais il les déplace et il nous mène sur des chemins que nous n'aurions pas imaginés. Donc, je Je pense qu'il y a ça, en effet, dans une théologie du salut. Et puis aussi, ce que vous nous avez dit, en effet, voilà, un être méconnu et qui est reconnu. Il y a dans cet évangile une réflexion très, très développée sur ce qu'est finalement l'identité de l'homme sauvé. Que l'on prenne le parti de voir en lui un pécheur, une fripouille. Il y a un changement de vie, voilà, réel. Mais si on tient l'idée que c'est un juste calomnié, hein, il y a une vérité, il y a une réhabilitation de sa personne, hein, qui fait que finalement il n'est plus prisonnier, victime du regard des autres, hein, mais qu'il peut être lui-même sous le regard de Dieu.
Il y a le problème du passé. Oui. Il dit que le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Mm-hmm. On pourrait le mettre au présent.
Oui, oui. Ah oui. Voilà. Tout à fait.
Et dans le texte, c'est décliné au passé.
Alors, il est sans doute fort possible, hein, que ce verset 10, ça soit un ajout de la communauté chrétienne, hein, dans l'histoire de la tradition et de la rédaction de l'Évangile, hein, qu'un rédacteur plus tardif ait finalement ajouté ce verset comme la leçon à tirer de ce récit, renvoyant finalement à l'interprétation théologique que l'Église a fait de Jésus, que la communauté lucanienne fait de Jésus. Il est, et qu'on aurait là, en quelque sorte, une rétro-projection, hein, de la théologie du salut de Luc, qui se déploie avec la résurrection, et qui est ramenée ici, finalement, le Fils de l'homme, celui qui est mort sur la croix et qui est ressuscité, hein, qui donne une vie nouvelle à ses disciples. Le sens de cette mort et de cette résurrection, c'est qu'il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Parce que, bien sûr, je crois que autant ce récit peut nous paraître limpide, et il l'est, hein, il est d'une grande simplicité, nous touche encore, autant je pense qu'il a été retravaillé à plusieurs niveaux par les rédacteurs de l'Évangile. Il y a sans doute un noyau originel, celui d'une rencontre que Jésus a fait avec un homme, et Dieu sait qu'il y en a eu, et on en a plusieurs témoignages dans l'Évangile, mais que sur cet événement originel, il y a plusieurs relectures qui viennent comme des couches successives. Il y a l'interrogation de la place respective de ceux qui viennent du judaïsme et de ceux qui viennent du paganisme dans l'Église chrétienne. S'il y a une interrogation sur qui est fils d'Abraham, c'est bien que dans l'Église primitive, dans les premières communautés chrétiennes, il y a vraisemblablement eu des tensions autour de cette question.
D'ailleurs, vous avez parlé de communauté lucanienne. C'était quoi cette communauté lucanienne ?
C'est l'Église. L'Église qui a donné naissance, finalement, à l'Évangile de Luc. On nous dit beaucoup, dans l'exégèse, que finalement, les Évangiles, ils sont le fruit de communautés. C'est la manière dont les paroles de Jésus ont été recueillies dans les Églises et comment elles ont servi à répondre à des questions des communautés.
Donc, ce ne serait pas globalement des rédacteurs individuels, ce serait toujours des groupes.
Ce sont des écoles, oui. Je pense qu'il y a eu des écoles de scribes et que ces textes ont été collectés. Enfin, les paroles de Jésus ont été collectées, qu'on a bâti des textes, qu'ensuite les textes, il a fallu les assembler pour en faire un récit cohérent, et puis qu'en fonction des questions et des problèmes qui traversaient l'Église, eh bien, on a redonné un sens qui n'était sans doute pas là à l'origine quand on évoquait l'histoire de Jésus. Il y a aussi, certainement, dans ce récit, la question de la place des riches dans l'Église. Hein, et, dans le, et Luc a le souci des pauvres, hein, c'est un évangile. Et là, on nous dit que derrière cette critique, cette mise en cause de Luc, il y a la question, quelle est la place des riches dans l'Église? Et une petite réponse qui nous est donnée. Mais vous avez une question.
Oui, justement, à ce sujet, il y a un livre qui a été écrit sur la vie de l'apôtre Paul, oui, qui illustre justement les tensions dans le courant, le nouveau courant, enfin le courant chrétien, hein, mm-hmm, c'est-à-dire des tensions du style, est-ce qu'on doit manger à côté d'un ancien païen ou pas? Doit-on manger dans la même salle à manger ou pas? Est-ce qu'on laisse les païens manger comme ils ont l'habitude, c'est-à-dire du porc, et non, s'assoit à côté d'eux, non, non, enfin, tout ça, ça fait l'objet de discussions et de tensions qui d'ailleurs minaient beaucoup Paul. Et au sujet justement de l'influence grecque qui est eu après dans les premières communautés chrétiennes, parce qu'il y a eu une influence grecque, c'est parce que les juifs qui étaient de la diaspora en Grèce et étaient beaucoup plus riches que les autres juifs de la diaspora. Donc c'est eux qui finançaient finalement la première communauté chrétienne qui était à Jérusalem, financièrement. Parce qu'ils étaient beaucoup plus riches que les autres juifs de la diaspora qui étaient ouverts au christianisme. Je me déguine un peu partout, ce qui explique justement l'influence de Timothée, enfin, des villes grecques, et voire même des coutumes grecques qui seraient un peu passées dans le christianisme, parce que c'était eux qui faisaient vivre la première communauté chrétienne, dont la communauté chrétienne à Jérusalem, avec le frère de Jésus, d'ailleurs, justement, qui était désigné comme le personnage le plus important après la mort de Jésus.
Tout à fait. Tout à fait. Ah. Et alors, ce sur quoi j'insiste, c'est que dans l'Évangile, les textes évangéliques ont une très grande profondeur. Et, on a tendance à les lire comme s'ils étaient en une seule dimension. Et en fait, voilà, ils sont comme des palimpsestes, en quelque sorte. On a réécrit sur... On a retravaillé. Il y a des repentirs, il y a des rajouts. Et on voit, en fait, qu'ils assument toute une série de questions dont beaucoup sont très postérieures au Jésus de l'histoire.
Jusqu'à ce qu'à l'époque, on a réécrit.
Eh bien, on dit que l'évangile de Luc, dans la forme qu'on lui connaît, date de la fin du 1er siècle.
Est-ce que ce n'est pas étonnant, je vais peut-être choquer certains d'entre vous, qu'on n'ait pas continué à réécrire? Non, parce que moi, je me heurte à... C'est très difficile de lire la Bible quand on n'a pas cette culture... Chrétienne, ça fait des années que je cherche.
C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, enfin, le texte a été canonisé, hein, il a été reçu comme parole de Dieu. Hein, d'ailleurs, la constitution du canon du Nouveau Testament, du canon des Écritures chrétiennes, c'est délicat, ça prend du temps, il faut pratiquement attendre la fin du deuxième siècle, le début du troisième, pour qu'on ait un canon à peu près comme celui que nous connaissons. Mais à partir du moment, en effet, où on canonise des écritures, des textes,
on les fige.
Hein. Il y a des traditions textuelles qui
pourquoi t'es arrivé?
Mais ce qui me paraît le plus important, c'est que cette écriture, nous disons l'autorité des écritures, mais nous devrions parler de l'autorité des lectures, puisque ce texte, il est suffisamment ouvert, nous le recevons comme une écriture, hein, que nous tenons pour inspirer, mais nous acceptons de nous retrouver autour d'une table pour le discuter, pour l'analyser et pour avoir des interprétations différentes, hein, et elles sont légitimes, voilà, et que c'est de ce partage de lecture et d'interprétation que je peux jaillir un sens pour aujourd'hui.
Oui, voilà.
Et ça c'est important.
C'est vrai que c'est difficile.
Mais je pense que c'est la richesse des évangiles, entre guillemets, parce que ça m'a déjà frappé, c'est que le même texte, le même inversé,
peut être interprété par les pasteurs, même les prêtres, de différentes manières. Mais
bien sûr.
Et le pire, c'est que c'est compréhensible. Oui. Je veux dire, je tire de toutes ces interprétations différentes, je trouve ça intéressant et vrai et juste.
En effet.
Et je trouve ça merveilleux. Quoi. Et je me dis, ça c'est tout, peut-être, on connaît le côté, entre guillemets, canon des évangiles. Quoi. C'est la beauté pour moi de Dieu. Quoi.
Ça peut être traduit, parce que moi, je fais du grec.
Oui.
Donc, ça m'arrive de traduire des textes bibliques. Par exemple, le plus difficile, c'est la deuxième lettre aux Corinthiens. C'est costaud. Et on peut, moi j'ai différentes traductions bibliques et on peut trouver différentes traductions à partir d'un temps en grec.
Oui.
C'est-à-dire un temps en grec peut être rendu de différentes manières selon le temps.
C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je vous conseille en effet sur un même texte de lire plusieurs traductions. Et le texte retrouve immédiatement son caractère, sa profondeur, son caractère originel, parce que on s'aperçoit que il n'est pas lisse, qu'il a des aspérités. Et c'est tant mieux qu'il ait des aspérités, parce que c'est ce qui nous permet de nous confronter avec lui et de faire apparaître un sens parmi d'autres. La Bible est plurivoque, heureusement.
Mais déjà, il y a déjà quatre évangiles. Hein.
Oui.
Et c'est ce que disent les rabbins. C'est quoi la bonne version de la Bible? C'est celle du lecteur.
Oui, voilà.
C'est même pas celle du rabbin.
Mais alors, qui est Luc?
Qui est Luc? Ah.
Et
qui est Luc? Qui est Luc? Voilà.
C'est que je mène à la question que je voulais vous poser tout à l'heure, si cela peut être opportune. Qu'est-ce que c'est sur Zachée? Quelle est sa biographie? C'est qui descend?
Voilà. Zachée est un inconnu de l'Évangile, comme tant de personnages dans l'Évangile, qui ne font qu'une brève apparition. Ils surgissent d'on ne sait où, ils disparaissent ensuite. C'est des miroirs. C'est des miroirs pour chacun d'entre nous. Hein, et on se regarde dans ce miroir par rapport à Zachée.
Voilà. Il était fonctionnaire quoi, de l'administration juive à l'époque.
Non, il était à son compte. Il avait acheté sa charge. Hein, c'est lui qui avançait l'impôt, puis à lui pour mission de se rembourser. Hein, donc,
Et quand il montait sur l'arbre, donc il était à la recherche du pardon. Donc, il avait besoin de ce lieu.
On ne sait pas ce qu'il cherchait. Il cherchait quelque chose. Il était en quête.
J'étais tellement curieux au début. Et puis
ça nous parle, on cherche tous quelque chose. Chacun cherche son chat, hein, comme disait un film d'autrefois. Mais au bout de cette quête, l'Évangile nous dit qu'on risque assurément de trouver quelque chose, mais de trouver quelque chose qui va nous dérouter aussi. Nous dérouter, nous...
De bien plus grand que ce qu'on attendait.
De bien moins grand.
Et si Comoran, il a fait beaucoup, maintenant, surtout dans la région parisienne, pour monter, pour. Maintenant, c'est remplacé par les selfies. C'est intéressant. Le personnage est intéressant parce qu'il est furtif, mais il a pas mal de questions autour de lui.
Il fuyait encore. Comme un arbre, il y a encore des arbres qu'on peut marquer facilement. Groseillier, non ?
Groseillier, je ne sais pas.
Il n'y a que le désespoir de singe sur lequel on ne veut pas taper.
Voilà, 13h30.
Merci beaucoup.
Je vous souhaite une bonne semaine. Et puis,
on a une semaine de réflexion demain.
Oui.